est en train de faire tout un parcours justement pour regarder les promesses de Dieu et voir comment Dieu tient toutes ses promesses. Donc c'est le grand titre de tout le cursus de cette année, c'est Fidèle à toutes ses promesses. Et le groupe des moyens, donc lui, parcourt la Bible, donc tout l'Ancien Testament depuis, et donc sur 3 ans, ils vont faire toute l'histoire biblique. Voilà, je tenais à vous informer de ça, comme ça, ça nourrit aussi vos prières, vous savez, ce que les enfants sont en train de regarder même en ce moment. Et pour la période de Noël, en fait, ils sont aussi en train de, dans ces semaines de l'Avent, en train de regarder donc les textes en rapport avec la venue, la première venue de Jésus dans le monde. Et c'est ce qu'on va faire aussi, nous, ce matin, avec un passage dans Luc au chapitre 2. Je ne sais pas si vous aimez les surprises. Il y a certaines personnes qui adorent ça, vraiment. Et pour d'autres, ça les met plutôt mal à l'aise. Ils aiment mieux des choses planifiées. Vous allez me dire, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Donc ça dépend de quelle surprise on est en train de parler. Hein. Les surprises, en tout cas, quand elles sont bonnes, elles nous mettent dans l'étonnement, n'est-ce pas? On peut avoir la mâchoire qui tombe. Il faut resserrer du coup les élastiques après ça. Quelque chose qui n'aurait pas dû arriver est arrivé, donc ça crée la surprise. Samuel est rentré avec un beau bouquet de fleurs pour sa femme. Waouh, ah, c'est gentil, on ne s'attendait pas. Donc il y a surprise et il y a de la joie. Ou alors c'était attendu, puis ben, Paul nous a dit, mais quand? Et il faut attendre, attendre. Et quand voilà, les choses se déclenchent, c'est la surprise, c'est maintenant. C'est le temps qui devient la surprise. Et on a mentionné, Farah, comme vous savez, avait fait une demande donc pour recevoir la nationalité française. Voilà, ben, surprise, c'était cette semaine, un courrier dans la boîte aux lettres qui lui annonce, après 1 an de démarche, eh ben voilà, c'est bon, réponse positive. Et puisqu'elles ne sont pas ou plus attendues, puisqu'elles ne sont pas dues, les bonnes surprises ont toujours à voir avec un cadeau, avec une idée de don. Les papiers qui enveloppent les cadeaux comme l'on s'échange, en particulier à l'occasion de Noël, ça sert aussi à cela, à créer le suspense, la surprise. Qu'est-ce qui se cache derrière ce papier? Et notre texte ce matin, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, parle d'une surprise que ni vous ni moi n'aurions jamais imaginée. Essayez de vous souvenir de la plus grande surprise que l'on vous a faite. Ben, c'est peu de choses par rapport à ce que nous allons lire ensemble dans Luc, maintenant, au chapitre 2. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Luc, chapitre 2, verset 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Attendez. J'ai déjà lu ça, hein, d'accord? Ouais. Ok, verset 8. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu, tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Vous avez le plan un peu de ce que je veux partager avec vous ce matin. Mais si vous avez remarqué, le début de notre récit, il n'y a rien de plus banal. C'est l'histoire ordinaire des humains. L'histoire vraie, l'histoire simple et normale de la vie au premier siècle, mais qui en fin de compte n'est pas très éloignée de notre vie au 21e siècle. C'est métro, boulot, dodo, quoi. La vie est rythmée par les démarches administratives. Je ne vais pas y arriver ce matin. Hein. La vie est rythmée par les démarches administratives et ses tracasseries. Les impôts. C'est en effet à cela que le recensement devait avant tout servir. Déterminer le nombre d'habitants dans le territoire d'Israël, cette région maintenant occupée par l'Empire romain, et l'Empire romain veut les sous, il veut les impôts. Quels vont être les impôts l'année prochaine ? Ça, c'est le sujet de discussion aussi autour de la machine à café, n'est-ce pas, dans notre société. Ce décret des pouvoirs politiques en place met Joseph, comme on l'a lu, un descendant du roi David, dans l'obligation d'aller se faire recenser lui aussi. Et je vous ai parlé des tracasseries administratives au 1er siècle aussi. Donc, les agents de la fonction publique sont chargés de faire respecter les textes. Et même s'ils ont de la compassion pour Joseph, qui explique que voilà, ma femme est enceinte, comment voulez-vous que je voyage jusque là-bas ? La loi, c'est la loi. Et il n'y aura pas d'exception. Alors, il faut décider, qu'est-ce qu'on fait ? Tu restes là, avec le risque que tu accouches sans que je sois présent, ou on y va ensemble ? Et alors, Marie et Joseph se mettent d'accord. Marie n'accouchera pas seule. Joseph sera là pour être avec son épouse et accueillir le bébé. Ils entreprennent donc le long voyage de 3 jours, probablement à dos d'âne ou à pied, peut-être en profitant de temps en temps de s'asseoir ou de s'allonger dans une charrette. Pour finalement arriver, fatigué, crevé, lessivé, à Bethléem. Et comme je vous dis, c'est la vie normale. Il n'y a pas de place. Tout est complet, fermé. Tout le monde est là. Il y a des gens qui viennent aussi se faire recenser. Et il n'y a pas de place pour les accueillir. Peut-être des gens indélicats, le texte ne le dit pas, mais il y a des gens indélicats à supporter. Peut-être ce tenancier d'auberge, là, qui n'a pas voulu faire une place, peut-être à la femme sur le point d'accoucher. Ça va déranger tout le monde. C'est vrai, c'est pas dans le texte, c'est pas impossible non plus. Peut-être que c'est juste que Joseph, il a eu recours au système D, mais tout comme nous, au 21e siècle, dans toute la vie normale, il faut bien se débrouiller. Imaginez la galère, vous êtes parti attendre la maison pour l'accouchement, mais la route est longue. Les nids de poules sur la route ont accéléré les contractions. Vous êtes à la porte de la maternité. Et on vous annonce, désolé, le service est débordé, nous n'avons plus de place pour vous accueillir. Le pire cauchemar, n'est-ce pas ? Vous avez, quelques-uns d'entre vous, vécu ça. Il faut vous rendre à l'autre maternité. Bref, la vie de famille, les débuts d'un jeune couple, avec ses joies et ses peines. Et le système D, bah oui, il faut bien être dégourdi dans la vie, parce qu'elle n'est pas toujours facile. Pas de place pour eux dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, avec Marie sur le point d'accoucher, mais... Et puis, donc, peut-être, c'est juste que Joseph, il voulait préserver Marie, il voulait vivre ce temps-là dans un peu d'intimité et pas dans une auberge surbookée. Alors, il prend les choses en main, il cherche, et puis il trouve un endroit tranquille, bien au chaud. Les bêtes sont dans les champs, il y a juste peut-être un âne et un bœuf, là, qui sont là. De la paille, tout ce qui est là, confortable, ils vont être bien. Le lendemain, c'est le passage à l'état civil. Comme je vous ai dit, la vie normale, métro, boulot, dodo, la même chose qu'au 21e siècle. Le bébé reçoit lui aussi ses papiers d'identité. Il faut faire les démarches. Et Jésus, vous avez remarqué, a été inscrit dans les registres de l'état civil. Il est dans les listings au milieu de tous les autres noms des gens qui sont à Bethléem à son époque. Métro, boulot, dodo. Ben, les bergers, ils ont du mal à trouver le sommeil, mais c'est le boulot pour eux. Boulot de nuit. Ils sont au travail dans les champs. Ben oui, il faut bien gagner son pain. Ils ne sont pas les personnes les mieux vues, d'ailleurs, ces bergers dans la société. On les méprise, bien que leur métier soit bien utile pour les Israélites, parce qu'ils sont en train de faire grandir des petits agneaux d'un an sans défaut, qui, pour certains, vont finir au temple, pour des bonnes raisons, c'est selon ce que le Seigneur avait prévu dans le système des sacrifices. Et en même temps, quelle injustice, n'est-ce pas? Leur métier les empêche de participer régulièrement à la vie culturelle de leur nation, parce que voilà, ils sont avec les animaux, c'est pas propre, etc. Et on doit venir au temple dans des bonnes conditions, rituellement propres, lavés, sans avoir touché du sang, des cadavres, etc., des déjections. Et eux, leur boulot, ben c'est ça. Et en plus, ils sont toujours en mouvement pour donner des pâtures aux bêtes. Alors, il y a de la suspicion. De quoi est-ce qu'ils vivent exactement? À mon avis, ça doit être des voleurs. Peut-être comme certains regardent de nos jours les gens du voyage avec mépris et Rome. Ce serait la même chose, on pourrait comparer ça avec les bergers de l'époque. Et comme pour les bergers, comme pour Joseph, pour Marie et tous les juifs de l'époque, c'est aussi la crise. Les autorités dominent, le pouvoir est dur, on a l'impression qu'on ne s'en sort pas. Et notre histoire nous parle d'un accouchement d'ailleurs, quelle image, hein ? La vie, c'est comme ça parfois, un accouchement. Oh, c'est douloureux et on a l'impression que ça ne va jamais terminer. Et puis, quand est-ce que ça vient, la délivrance? Il y a la fatigue, peut-être le stress, la peur, la douleur. Combien on peut s'identifier, n'est-ce pas, à la situation que nous lisons, en fait, au début de ce passage? Le monde, aujourd'hui, est dans cette situation, accaparé par le ronron de métro, boulot, dodo, même à Cavaillon. Les tracasseries administratives, la vie de famille avec les enfants malades, les conduites à l'école, le stress des journées remplies d'activités, le boulot, les patrons. Au point où on en oublierait presque qu'il y a une autre réalité, au point où l'on perd de vue le sens de l'histoire humaine dans son ensemble, au point où on perd de vue le sens de notre propre existence parfois. Pourquoi trimer? Pourquoi se lever tôt? Pourquoi se coucher tard? Que faisons-nous dans ce monde? Ce que nous produisons aujourd'hui, à quoi ça va servir dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 500 ans? Et je crois que cette perte de sens et cette frénésie dans les activités, nous la ressentons tous, peut-être même de plus en plus. Et dans ce ronron, ce train-train quotidien, bam, versets 9 à 14, une nouvelle vient briser le cycle de métro-boulot-dodo. Mettez-vous un peu à la place des bergers, en train de discuter autour du feu de leur journée, tout en jetant un œil sur les moutons rassemblés à proximité. Ils ont bien une idée, eux, tous juifs qu'ils sont, des prophéties, de l'attente, mais ça fait tellement longtemps. Une conscience, comme nous aussi, que ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. C'est cette fameuse conscience de l'éternité que Dieu place dans le cœur des êtres humains, dont Salomon a parlé dans le livre de l'Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 11, nous lisons ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps, mais des fois, il faut attendre, justement. Et il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Et souvent, justement, pris sous le poids de nos responsabilités quotidiennes, on perd de vue le sens de l'histoire, le commencement et la fin prévue par Dieu. Mais Salomon nous exhorte. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Donc dans notre vie quotidienne, il nous faut regarder vers le Seigneur. Quel est le sens de toute l'histoire qui est en train de se dérouler? La même chose au XXIe siècle. N'est-ce pas? Nous, particulièrement en tant que chrétien, mais aussi nos contemporains, ceux qu'on croise jour après jour, dans le boulot, dans les crèches, pas celle de l'enfant Jésus, mais celle où on met nos enfants dans la journée, dans les écoles. Les gens sont aussi pris par ça. Ils ont perdu de vue le sens de l'histoire de Dieu. Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons ressentir la frustration, les douleurs, la fatigue et les luttes, avec aussi des joies et des satisfactions, mais toujours ce désir en nous de plénitude qui n'est pas comblée. Essayons d'actualiser un peu la situation. Des collègues sont là autour de la machine à café en train de discuter des dernières décisions dans l'entreprise, en train de parler de toutes leurs activités du week-end. Et bam, un ange apparaît. Dans le train-train, dans l'ordinaire, l'extraordinaire fait irruption. Quand on n'attendait plus rien. Les gars, ce que vous faites là, c'est bien. Mais ce malaise que vous ressentez, ce manque de sens, de perspective, tout ça, c'est sur le point d'être résolu. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et plus que l'apparition d'un ange au milieu du quotidien, c'est la nouvelle qui doit nous intéresser. Il y a des nouvelles qui nous cassent et qui nous découragent, n'est-ce pas ? On apprend qu'on est atteint par une maladie. On apprend qu'on va perdre son boulot. On apprend que il n'y a pas de possibilité de sortir d'une situation, je ne sais pas, auquel on est pris au piège. Mais ici, la nouvelle est un sujet de joie. Regardez ce que les anges annoncent. Verset 10. « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Et cette nouvelle, elle est la suivante. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » C'est une nouvelle de salut. Il y a un sauveur qui vient. Il y a un sauveur qui arrive. C'est aujourd'hui. Un sauveur puissant. Le titre « Sauveur » n'est employé que deux fois dans les quatre évangiles. Ici, dans ce passage, et en Jean chapitre 4, au moment où Jésus parle avec la femme samaritaine au bord du puits, et puis elle raconte tout ça au village. Finalement, les gens arrivent, ils posent des questions à Jésus et les Samaritains s'exclament. Ils disent à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Ils reconnaissent en Jésus-Christ le Sauveur du monde. Ce Sauveur n'est pas n'importe qui, c'est un descendant du grand roi David. C'est un libérateur, selon la promesse qui avait été faite à David lui-même, un chef pour tout le peuple. S'il y a un chef, s'il y a un libérateur, s'il y a un sauveur, c'est qu'il y a un danger. Il n'y a aucune raison d'être dans la joie pour avoir un sauveur s'il n'y a pas de danger. Il faut quelque chose dont on doit être sauvé, quelque chose qui nous dépasse, dont nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, contrairement à ce que le petit train-train, métro, boulot, dodo nous fait croire. Je vais persister, je vais bien bosser, je vais me mettre de côté des économies et je m'en sortirai par moi-même. Mais le danger est bien plus grand que cela. Ce n'est pas l'invasion romaine du 1er siècle, ce n'est pas la crise économique, ce n'est pas la pénibilité de la vie qui est le danger. Il s'agit de quelque chose de bien plus grave, de plus personnel, notre propre péché, notre propre rejet de Dieu. Et toutes ces choses, la pénibilité de la vie, la crise, sont que des symptômes de cette maladie du cœur. Mais voici celui qui vient, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est en d'autres termes le roi choisi par Dieu. C'est même incroyable, parce que c'est le Seigneur. Le Seigneur, ce terme-là, ce titre-là, n'était pas donné à n'importe qui, c'était réservé à Dieu. Et donc ce nouveau-né, on annonce au berger qu'en fait, il est Dieu lui-même. C'est le Seigneur qui vient. Dieu lui-même a le pouvoir de donner une vie nouvelle. Il a le pouvoir de créer à partir de rien. Et si vous lisez avant cela dans Luc chapitre 1, vous voyez que Jésus naît d'une femme vierge. Mais Dieu est capable de ça. Dieu est donc capable de sauver. Et tous ces termes glorieux, chargés de sens, porteurs des promesses les plus grandes, des bénédictions attribuées, tout cela sont attribués à un nouveau-né, de même pas 8 jours, peut-être à peine quelques heures. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un nouveau-né, j'imagine que oui, un neveu, une nièce, les enfants d'un ami, peut-être votre propre enfant. C'est beau, n'est-ce pas ? c'est doux, c'est chaud, c'est mignon. Et en même temps, c'est fragile. Il tient rien, un nouveau-né, même pas sa tête. Il faut prendre cet enfant avec des gestes délicats. Il est complètement à la merci de tout. Ne le laissez pas tomber, ne le secouez pas. J'ai toujours été frappé par les petits ongles, à peine formés. C'est tout petit, des petites mains. Et puis il commence à tousser, à pas bien avaler, et on peut rien faire. C'est si fragile. Pour réaliser tous ces titres glorieux attribués à un petit nouveau-né de même pas quelques heures, quelques jours. Et quel est le signe justement, voilà, auquel on va, qui est donné à l'ange pour préciser de quel enfant il s'agit, qui est cet enfant qui porte tous ces titres glorieux, ce roi tant attendu, tant désiré? Ben, les anges indiquent que cet enfant sera emmailloté et couché dans une mangeoire, une crèche. Il est bien possible qu'il y avait plusieurs nouveau-nés qui se soient trouvés à Bethléem ce soir-là, mais il n'y en avait qu'un qui était couché dans une mangeoire, dans une situation pas ordinaire, n'est-ce pas? Un simple bébé, un être humain. Remarquez comme Luc, il insiste, c'est pas un bébé extraordinaire, c'est un simple bébé humain. Il est né, Marie a accouché. D'accord? Jésus n'est pas apparu comme ça, de manière qui aurait court-circuité les processus naturels. Il arrive dans un contexte historique bien précis. Il y a César Auguste qui est empereur, il y a Quirinus qui est en train de faire le recensement. De nouveau, rappelez-vous que celui qui écrit n'est pas un mystique irrécupérable. Luc, c'est un médecin, c'est un homme instruit. Donc les accouchements, ça lui connaît. Mais tout comme les bergers, il est convaincu, il est touché. On lui a transmis cette nouvelle, il y a cru. C'est la venue de Dieu dans le monde. C'est une nouvelle, enfin, pour la paix. Les anges chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Cette nouvelle, vous avez remarqué, pour la paix, elle est annoncée par qui? Une armée d'anges, des serviteurs de Dieu. Dieu déploie sa force, mais c'est pour vaincre le mauvais, c'est pour vaincre l'ennemi, c'est pour vaincre l'adversaire, pour accorder la paix. La paix qu'il annonce, il a les moyens de la faire advenir. Et ce moyen, ce n'est pas dans les anges. De nouveau, ça doit nous surprendre. Il est dans ce petit enfant fragile, dans ce nouveau-né. C'est lui le sauveur. Donc le sauveur, c'est une personne. Ce n'est pas un moyen que Dieu choisit, c'est un homme. C'est le roi choisi. C'est Dieu lui-même avec nous. Et cette nouvelle, elle est pour tous les humains. Initialement, le terme fait référence au peuple d'Israël. Elle est pour tout le peuple. Israël de l'ancienne alliance dont est issu Jésus. Mais au fur et à mesure de l'évangile de Luc, et encore plus nettement dans son deuxième tome, le livre des Actes, dont il est aussi l'auteur, on voit que le plan de Dieu concerne des ressortissants de toutes les nations. Et jusqu'à nous aujourd'hui, puisque cette nouvelle doit parcourir toute la terre, elle touche les Roms, qui sont ici d'ailleurs à Cavaillon, les gens du voyage, peut-être on méprise. Les faibles dans la société, comme Marie et Joseph, ils ne sont pas très fortunés, Marie et Joseph, tous descendants de rois qu'ils sont. Ça remonte à bien longtemps. Mais quel que soit le statut social, les gens riches aussi sont concernés. C'est pour tous ceux que Dieu agrée, pour tous ceux que Dieu aime. Même le possible tenancier d'auberge indélicat, s'il reconnaît que Jésus est le Sauveur, le Messie. Ce qui compte, c'est d'être agréé de Dieu. Et Pierre, l'apôtre Pierre, nous dit ceci en Actes 10. Pierre ouvrit la bouche et dit « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Voilà comment être agréé de Dieu. « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. » Voilà comment être agréable à Dieu. Être en paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est lui, le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. En d'autres termes, s'il l'a oint, il l'a choisi, c'est lui le Messie. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Il y avait donc bien un danger dont il fallait être sauvé, c'est le diable lui-même. Car Dieu était avec lui, non pas avec le diable, mais avec Jésus qui est délivré, n'est-ce pas, du diable. Et Pierre dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Et écoutez la conclusion. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quelle nouvelle! Et regardez la réaction des bergers, tout accaparés par leur travail qu'ils sont. Quelque chose d'important vient de leur être révélé. On leur a fait connaître un message de la plus haute importance, et ils en sont conscients. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent pour vérifier si ce qu'on leur a dit est vrai, si ce qu'ils ont vu et entendu est bien réel, et non pas juste une fable, si ce n'est pas juste un conte de fées, une jolie histoire, inventée, romancée, en prévision du Noël autour du feu et du sapin de tous les petits Européens du XXIe siècle. Cette histoire-là n'est pas une histoire mystique, invraisemblable, comme entre parenthèses celle relatée dans le Coran, si vous avez déjà lu quelques versets là-dedans où on voit Marie donc qui accouche et puis à peine sortie du ventre de Marie, Jésus se met à parler et à prophétiser, à dire des choses. Regarde, c'est bien réel tout ce qui est en train d'être décrit ici. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit à vous au sujet de ce petit enfant. Je ne sais pas ce que vous retenez aujourd'hui à propos de ce petit enfant. Est-ce que vous êtes comme Marie, en train de repasser toutes ces choses dans votre cœur, de les conserver, d'y réfléchir? Ou est-ce que vous êtes accaparé par métro, boulot, dodo, quotidien, ordinaire? Est-ce que vous aurez la même curiosité que les bergers d'aller vérifier pour vous-même les affirmations qui vous ont été transmises au sujet de cet enfant? En même temps Christ, en même temps Seigneur, en même temps Dieu, et en même temps un simple nouveau-né, un simple homme. Avez-vous pris le temps de lire la parole, de vérifier dans les Écritures? Est-ce que vous revenez, comme Marie, régulièrement à la parole, aux Écritures, pour méditer sur toutes ces choses? Toutes ces choses sont vraies. Et je voudrais encore vous faire remarquer ceci. Luc, qui est médecin par son métier, un collaborateur de l'apôtre Paul, est un homme instruit, je l'ai déjà dit, qui avant de se lancer dans la rédaction de son évangile a pris soin d'enquêter soigneusement. Lui aussi, il a eu la même réaction que les bergers. Vous me dites ça, mais je vais aller vérifier. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui exactement s'est réellement passé. Il a enquêté soigneusement avant de mettre par écrit. Il a été voir les témoins oculaires. Il a fait pour que tous ceux qui lisent puissent avoir la certitude des enseignements qu'ils ont reçus. Vous voyez ça dans les 4 premiers versets de l'évangile de Luc. Ce récit n'est pas raconté pour nous amener à nous identifier à Marie ou Joseph, un jeune père et une jeune mère. Ce qui compte dans cette histoire, ce ne sont pas les circonstances de la naissance d'un petit bébé dans un environnement des plus humbles, bien qu'il apparemment soit quelqu'un de très important. En fait, l'espoir et la valeur de cette naissance sont liés non pas à tout cela, mais à la personne qui naît. Et il faut qu'on réfléchisse, mais qui est donc ce Jésus qui vient de naître? Les bergers ont découvert que les paroles des anges étaient vraies, que tout était arrivé comme ils l'avaient dit. La parole de Dieu est donc en train de se réaliser devant eux. On entre dans une nouvelle étape du plan établi par Dieu. Et leur cœur éclate de reconnaissance et en louange parce que Dieu a envoyé le Sauveur, le Messie. Serez-vous curieux comme les bergers? Resterez-vous curieux de connaître toujours plus ce Sauveur, ce Roi choisi, le Seigneur lui-même, après plusieurs années passées dans l'Église? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu a fait encore d'autres promesses? Est-ce que vous êtes curieux d'aller chercher dans la parole les promesses qui restent encore à être accomplies. Partagerez-vous l'excitation des anges et de tout le domaine céleste face à la réalité de la première venue de Jésus? Partagerez-vous l'excitation et la joie des bergers d'aller parler à tous de ce qu'ils ont vu et entendu, de voir Jésus venir établir son règne? Il a commencé à le faire lors de sa première venue. Il le fera de manière définitive, totale, complète, lors de sa deuxième venue. Nous aussi, nous sommes dans une attente. Alors, quelle réponse allons-nous donner à ce récit de Noël, dans cette période de l'Avent, de réflexion? Une seule réponse est appropriée, ou deux si vous voulez. C'est le verset 20, n'est-ce pas? Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Glorifier Dieu. Si tu es chrétien, chrétienne ce matin, vis ton quotidien, métro, boulot, dodo, la vie ordinaire, mais en étant ancré dans cette nouvelle passée de la première venue de Christ, qui donne un sens à tout ce que nous faisons dans toutes nos activités de la journée. Et en regardant en même temps vers la deuxième venue, la promesse qui est encore en attente d'accomplissement. Voilà comment nous allons glorifier Dieu, non pas simplement le dimanche matin quand nous serons rassemblés, mais tout au long des minutes, des secondes, des heures que nous égrenons dans nos semaines. Là où nous continuons à être l'Église, bien que nous soyons dispersés dans différents endroits, différentes villes, différentes activités, différents lieux, en contact avec différents réseaux de personnes, les uns et les autres. Glorifions Dieu pour ce que nous avons vu et entendu. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas chrétienne, ça va impliquer de cesser de te glorifier toi-même, de chercher à te faire un nom pour toi-même, de construire une vie pour toi-même. Glorifie Dieu, car il y a la paix sur la terre dès maintenant pour les hommes et les femmes que Dieu aime, qui renoncent à la rébellion contre Dieu et qui se soumettent à son autorité. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et la paix est déjà maintenant pour de tels hommes et de telles femmes, et encore plus dans l'éternité. Une manière de glorifier Dieu, c'est de vivre comme lui a vécu dans son incarnation, son humiliation sur terre. Le grand roi s'est fait serviteur, même le serviteur des Roms, même le serviteur des gens du voyage, même le serviteur des bergers, des plus simples et des plus pauvres. Imitons-le. Et surtout, dans tout cela, alors que nous faisons tout cela, louons Dieu, remercions-le, disons-lui toute notre reconnaissance d'avoir fait tout ce chemin, d'avoir accepté une condition si pitoyable d'être humain, au regard de la grandeur, de la puissance de Dieu. Remercions-le d'avoir fait tout cela pour nous sauver, d'avoir manifesté sa puissance pour notre salut. Et faisons-lui confiance. Dieu a tenu parole dans le passé. Aujourd'hui et demain, il le fera encore. Amen.